Jesus Christus.
$235 millions d'aides européennes à la Syrie. Pour la première fois, une haute responsable de l'Union européenne en visite à Damas annonce un paquet de soutien humanitaire à la région. Tandis que la réflexion sur l'allègement des sanctions continue, reportage auprès des civils les plus vulnérables. Campagne de désarmement au Mexique, l'Église catholique s'allie au gouvernement fédéral pour lutter contre la violence endémique. Dans ce journal, nous irons au Soudan où les États-Unis sanctionnent le chef de l'armée avant de partir en Serbie où continue la révolte estudiantine contre la corruption et le gouvernement. Elle a pris un nouveau tournant hier, nous verrons pourquoi.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour. En Syrie, plus d'un mois après la chute du régime de Bachar al-Assad, l'avenir des Kurdes de l'administration autonome du nord-est syrien reste en suspens. La semaine dernière, ces derniers ont annoncé s'être entendus avec le nouveau régime de Damas pour rejeter toute division territoriale du pays. Près de la ligne de contact, la situation reste tendue et les civils sont pris en étau. Le reportage de notre envoyé spécial à Al-Makieh, Manon Chaplin.
Il est 17h et tous les regards des habitants d'Al-Malkieh se tournent vers le ciel. C'est d'ordinaire à la nuit tombée que les drones kamikazes des Kurdes des forces démocratiques syriennes frappent le village. La consigne est donnée de ne pas rester groupés afin d'éviter d'être visés, rappelle Youssouf, professeur du village.
Le dernier bombardement a eu lieu hier soir, aux alentours de minuit et demi. Deux hommes ont été tués. Vous pouvez lire la terreur sur le visage des familles, sur le visage des enfants, des femmes, des personnes âgées, des jeunes. Tout le monde a peur, c'est la panique.
Le premier checkpoint vers la zone kurde a été érigé quelques kilomètres plus loin en direction du village de Deir Afir. Les forces démocratiques syriennes qui revendiquent l'autonomie dans le nord-est ont profité de la chute du régime pour y avancer leur position. À Al-Malkieh, des combattants d'Ayat Tahrir al-Sham ont été déployés, la Kalachnikov en bandoulière, ce qui ne suffit pas à rassurer Nawal.
Nous sortons de 14 années de guerre, n'est-ce pas suffisant? Nous sommes épuisés, nous ne pouvons plus garantir la sécurité de nos propres enfants.
Il y a quelques jours, la rigole qui irriguait les champs du village a été bloquée. Impossible désormais pour les agriculteurs de travailler. Impossible également de passer de l'autre côté du checkpoint.
Ils ne nous laissent pas entrer à Deir Afir. Pourtant, de nombreux habitants y travaillent, des jeunes hommes, des enseignants. On ne peut pas passer. C'est ce qu'ils nous ont dit. Vous ne pouvez pas passer.
À Al-Malkieh, comme dans la région, les habitants n'espèrent qu'une chose, que la paix s'installe. Plus au nord, près de Manbij, des combats sont également en cours entre les factions arabes de l'armée nationale syrienne et les combattants kurdes. À Al-Malkieh, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
C'est la première visite d'une haute fonctionnaire de l'Union européenne en Syrie. La commissaire chargée de l'aide humanitaire d'urgence promet ce vendredi une aide de 235 millions d'euros pour le pays et ses voisins. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE doivent examiner dans 10 jours à Bruxelles de possibles assouplissements concernant les sanctions internationales auxquelles la France et l'Allemagne sont favorables. Les services du Premier ministre israélien réunis aujourd'hui dévoilent le calendrier de libération des otages. La première interviendra ce dimanche, premier jour de la trêve à Gaza, selon les termes de l'accord annoncé mercredi par le Qatar et les États-Unis. Et au sud du Liban, où le cessez-le-feu arrive à expiration le 26 janvier, le secrétaire général de l'ONU annonce aujourd'hui la découverte par les casques bleus de plus de 100 caches d'armes du Hezbollah depuis la trêve. L'occupation et les opérations militaires israéliennes dans le sud du Liban doivent cesser, plaide Antonio Guterres. Et présent au pays du Sèbre, en même temps, Emmanuel Macron affirme lui à Beyrouth que l'application du cessez-le-feu en question, les choses avancent, la dynamique est positive. Le président français est attendu ce soir au palais présidentiel de Baabda pour rencontrer son nouvel homologue libanais. Il doit aussi revenir dans le quartier dévasté par l'explosion du port de Beyrouth. Pas d'explosion, mais une violence endémique continue de ravager le Mexique. Ainsi, la conférence épiscopale s'est associée au gouvernement fédéral pour tenter d'y mettre fin en lançant une campagne de désarmement sur la base du volontariat. Et les Mexicains peuvent laisser leurs armes dans la basilique Notre-Dame de Guadalupe, monnayant une forte somme allant de 15 000 à 24 000 pesos et avec la garantie de ne pas encourir de poursuites judiciaires. À Mexico, Diego Calmar.
Abandonner son arme en échange d'argent, c'est la nouvelle initiative du gouvernement mexicain. Déposer ses armes dans des boîtes de collecte placées symboliquement sur le parvis de la célèbre basilique Notre-Dame de Guadalupe à Mexico. 80 000 pesos, soit quasiment 200 euros en échange d'un pistolet, jusqu'à 1 200 euros pour une mitraillette. Le programme Oui au désarmement, Oui à la paix a été lancé vendredi dernier et l'épiscopat mexicain s'associe donc à cette opération. Pour rappel, plus de 35 000 personnes sont tuées chaque année au Mexique, principalement au sein du conflit entre cartels et les autorités mexicaines. Depuis 2021, le Mexique a porté plainte plusieurs fois contre les fabricants d'armes américains qui l'accusent de pratiques commerciales négligentes en matière de circulation d'armes à feu. Ce désarmement est surtout une opération de communication, mais il représente bel et bien la volonté de la présidente Claudia Sheinbaum, en poste depuis 3 mois et demi, de réduire l'insécurité qui gangrène le Mexique. À Mexico, Diego Calmar pour Radio Vatican.
Aux États-Unis, 3 jours avant de quitter le pouvoir, Joe Biden commut 2 500 peines pour des délits non violents liés à la drogue. Un record, il affirme en effet être le président américain ayant accordé le plus de grâces et de commutations. L'usage de cette prérogative présidentielle est reconnu et souligné par le Saint-Siège, ayant régulièrement appelé l'hôte de la Maison-Blanche à agir de la sorte, surtout dans le cadre de l'année sainte. Le souverain pontife argentin a reçu ce matin au Vatican des séminaristes de Cordoue, cette ville messagère d'Andalousie. Comme la veille devant des prêtres argentins de Rome, le pape les a invités à sortir du confort car, dit François, l'espérance n'est pas une bonté mielleuse. Le couvre-feu nocturne instauré au Soudan du Sud. La situation dégénère après des pillages de commerce soudanais à Djouba, la capitale sud-soudanaise. Une manifestation avait été organisée hier pour protester contre des informations faisant état du meurtre récent de 29 sud-soudanais au Soudan voisin en proie à la guerre. Et cette guerre ravage le Soudan depuis 21 mois, plongeant le pays dans la pire crise humanitaire de la planète. Elle jette plus de 12 millions de Soudanais sur les routes et fait basculer 25 millions d'individus en situation d'insécurité alimentaire. Avant son départ, Joe Biden a sanctionné le chef de l'armée pour violation du droit international humanitaire. Addis Abeba, Augustine Passy.
9 jours après avoir visé le chef des forces de soutien rapide, le Trésor américain a imposé hier des sanctions aux dirigeants de l'armée soudanaise qui préside par ailleurs le Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah al-Burhan. En décembre 2023, j'ai déterminé que des membres des forces armées soudanaises avaient commis des crimes de guerre, a précisé le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Washington considère donc que le général Burhan doit assumer la responsabilité des crimes perpétrés par ses troupes à l'encontre des civils ainsi que pour les violations du droit international humanitaire. Il est aussi reproché à Burhan d'avoir fait obstacle aux efforts de paix en refusant par exemple d'envoyer une délégation à Genève en août lors de la dernière tentative de médiation co-organisée par les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Suisse. Les analystes regrettent que ces sanctions arrivent tard, à moins d'une semaine du départ de Joe Biden de la Maison-Blanche. Hier, 4 responsables américains ont en outre révélé au New York Times l'utilisation d'armes chimiques par l'armée à au moins 2 reprises depuis l'éclatement de la guerre. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Retour en Europe, en Serbie, la révolte estudiantine contre les autorités prend un nouveau tournant. Ce jeudi, lors d'une manifestation contre la corruption à Belgrade, une jeune femme a été gravement blessée par une voiture, entraînant une réaction spontanée des manifestants. À Belgrade, Laurent Rouy.
Depuis 2 mois et demi, les manifestations étudiantes suite à l'effondrement de l'auvent de la gare de Novi Sad qui avait fait 15 morts sont quotidiennes. Lors d'un de ces rassemblements, jeudi à Belgrade, une voiture a forcé le passage et a fauché une étudiante projetée sur plusieurs dizaines de mètres. La victime se trouve dans un état grave. Si le conducteur a été rapidement arrêté, les étudiants furieux reprochent au parti au pouvoir d'envoyer régulièrement des provocateurs contre les manifestants. C'est au cri de « vous ne nous écraserez pas » que plusieurs milliers d'entre eux se sont rendus spontanément devant le bureau du procureur et le siège du gouvernement pour exprimer leur colère. D'autres manifestations ont eu lieu à Novi Sad et à Kraljevo. Soutenus par une grande partie de la population, les étudiants réclament justice pour la tragédie de la gare, mais aussi que ceux qui s'en prennent aux manifestants soient identifiés et jugés. Accéder à ces revendications reviendrait à faire la lumière sur les irrégularités commises lors de la rénovation de la gare de Novi Sad, ce que le gouvernement ne peut se permettre. La contestation prend de plus en plus d'ampleur en Serbie. Belgrade, Laurent Rouy, Radio Vatican.
Et avant de refermer ce journal, cette information de l'Église de France, elle demande à la justice d'ouvrir une enquête sur l'abbé Pierre, annonce le président des évêques Monseigneur de Moulins-Beaufort ce matin sur la radio RMC. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci de l'avoir suivi. L'actualité du pape, de l'Église et du monde revient à 18h, présenté par Olivier Bonnel. Très belle journée.